À voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dion rencontre Éric Cantona. Deuxième entretien.
Éric Cantona, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous souvenez la première fois que vous avez vu Cruyff à la télé ?
La première fois, je m'en souviens pas bien, non. Je peux pas vous dire quand est-ce la première fois, quoi. Mais par contre, je me rappelle très bien de la finale de la Coupe du Monde, là où j'étais, quoi. J'étais en Espagne, à Barcelone, chez mes grands-parents maternels, à Martorell, exactement. Ouais, et je me rappelle avoir pleuré après le match, quoi. Et l'année dernière, je me suis retrouvé en Malaisie avec Cruyff et Breitner. Incroyable.
Un hasard.
C'est-à-dire Breitner des années 70, ouais. À la Coupe du Monde 74, quoi, et Cruyff.
C'était un hasard.
Cruyff, je savais qu'il serait là. Breitner, je savais pas. Mais de me retrouver comme ça, à un moment donné, avec là au milieu, quoi. Voilà. Et c'est.
Ça fait quoi?
Bah, ça fait ça fait bizarre, quoi. Non, c'est ouais.
Et vous êtes
ça fait bizarre parce que c'est des moments importants qui... C'est... Moi, j'ai jamais eu d'idole, quoi. J'ai jamais idolâtré quelqu'un, quoi. Un joueur, quoi. Mais des modèles, quoi. Des gens qui ont une forte influence, quoi.
Même les Pelés, tout ça, c'était pas des idoles pour vous.
Non, mais même Cruyff, mais on sentait qu'il, alors que moi j'avais quoi, en 74 j'avais 8 ans, quoi. Mais on sentait qu'il se passait quelque chose. Mais déjà avant ça, l'Ajax avait gagné la Coupe d'Europe. On était jeunes, quoi. Et on n'avait pas, je pense pas qu'on avait assez de références pour intellectualiser tout ça, quoi. Je sais pas comment ça s'est passé, voilà. Mais on sentait qu'il se passait quelque chose.
Alors, on se souvient évidemment tous de Cantona attaquant, mais peu de gens se rappellent que vous avez d'abord commencé comme gardien au Cailloles. Ouais. Vous étiez gardien avec des gants. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit, c'est pas là ma place, c'est devant?
C'est pas compliqué. C'est que les Cailloles, c'était un grand club formateur. Enfin, formateur amateur, hein. C'est-à-dire pour les centres de formation, quoi. Mon père était gardien, donc j'ai voulu jouer gardien comme mon père. Et en fait, je jouais dans une équipe, on gagnait 6-0, 7-0, quoi. C'est-à-dire que toute la semaine, j'attendais le match et puis je touchais pas un ballon, quoi. Et donc je me suis dit, bah, il faut que je m'amuse un petit peu quand même. J'aurais joué dans une équipe moyenne, j'aurais sans doute continué en tant que gardien, quoi. Mais c'est juste que là, je m'ennuyais, quoi. Je touchais jamais. On dominait tellement, quoi. Voilà. Donc je suis passé devant. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Je pense que j'aurais fini gardien autrement. C'est vraiment un poste qui me plaisait, quoi. Bah, de toute façon, j'ai toujours aimé les postes à responsabilité. C'était gardien ou devant. Hein.
Extrêmes.
Après, les autres, ils sont les extrêmes. Après, tous les rôles, tous les postes, c'est important. Hein. Mais c'était où arrêter un but ou le marquer, quoi.
Alors, dans la vie d'un préadolescent, il y a effectivement la peinture, on en a parlé. Il y a la famille, il y a les frères, il y a le foot. Et il y a aussi l'école, quand même.
Il y a aussi l'école.
Mais ça ne vous a pas beaucoup marqué, Éric Cantona, l'école?
Non.
Pourquoi?
Parce que je
n'ai pas eu de belles rencontres avec des instits.
Non. J'étais...
Même avec une certaine Madame Or.
Madame Or? Ouais, c'était un CM2, ça, je crois.
Voilà. Ouais. J'ai cru voir ce nom... Quelque part, comme quoi vous regardiez souvent cette institutrice?
Non, mais c'était un CM2. Ça. Après, j'ai eu des... Non, mais c'était le football. Et puis, je remercie quand même mes parents, quoi. Parce que je suis parti... j'ai continué l'école, je suis allé... donc, en fait, quatrième, troisième, on a fait... j'étais en foot études, quoi. Donc c'était là c'était entraînement tous les jours par contre. Donc 13 14 ans. Là c'est on commençait foot études avec quelqu'un qui m'a marqué aussi, qui a été important pour moi, Célestin Oliver. qui était l'entraîneur, quoi, qui était prof de gym là-bas et qui a fait partie de la Coupe du Monde de l'équipe de France en 1958. Il n'était pas titulaire, mais il faisait partie du groupe, qui a joué à Sedan, qui était un grand joueur, exactement, en Suède. Et donc, moi, j'ai jamais redoublé, je suis toujours passé juste au-dessus de la moyenne, juste pour passer, quoi, oui. Pas de mais zèle, le football, pas... c'était ma priorité, mais mes parents, après, partir de Marseille pour dire, tiens, on part au centre de formation à Auxerre, quoi, 700 kilomètres, quoi. Parce que je connais des, il y a des copains que je vois et qui étaient doués, quoi. Et les parents, c'était, bah, il faut que tu, le rêve, c'était que le petit devienne fonctionnaire, quoi. Alors, c'est magnifique, sauf qu'aujourd'hui, ils sont tous malheureux, quoi. Ils sont malheureux parce que c'est un rêve tellement fort, quoi. C'est de devenir un joueur, pas joueur professionnel, quoi. C'est jouer au plus haut niveau avec les meilleurs, quoi. Finalement, ils auront toujours quelque chose, comme quelque chose d'inachevé, quoi. Voilà. Moi, mes parents,
ils vous ont encouragé. Ils vous ont laissé faire.
C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit, faut y aller. Ils m'ont dit, tu veux y aller, vas-y. Voilà. Et puis après, ils ont été proches de nous, tout en nous laissant. Voilà, la bonne distance, quoi. Vous voyez, c'est comme le marquage, ça. C'est pareil, hein. C'est comme le marquage sur un terrain, quoi. Voilà, trop près, c'est pas bon, trop loin, c'est pas bon. Il faut juste trouver la bonne distance pour pouvoir intervenir, quoi.
Mais jamais vous êtes dit, Rick Cantona, en étant à l'école, l'école peut m'aider à entrevoir autre chose que le football. Je fais un peu de provocation.
Hein, ouais, mais
l'idée d'être devant une scène de savoir, de connaissance, des enseignants qui incarnent effectivement une certaine érudition, jamais vous avez rencontré un prof qui aurait pu vous dire, mais Rick Cantona, vous êtes doué, pas forcément exclusivement pour le foot.
Mais j'étais curieux aussi, comme ce que je vous disais, c'est que nos parents ils nous ont aussi donné ce truc, ce sens de l'observation et d'avoir envie de connaître des choses. J'ai les connaissances que j'ai, quoi, mais ce que j'ai eu envie d'apprendre, je l'ai appris, quoi. Et j'ai été curieux toute ma vie. Et pas simplement dans le football, quoi. Et je continue d'être curieux. Et en fait, je me fais mon école à moi. Je me fais moi. Qui j'ai envie de lire, qui j'ai envie de truc, comment j'ai envie de comprendre les choses, comment j'ai envie de truc, quelle interprétation je me fais des choses. Je suis autodidacte. Voilà. L'école, c'est important, mais on a aussi la possibilité d'apprendre soi-même, quoi. On a aussi la possibilité d'ouvrir un livre et d'apprendre. Mais il faut être curieux. Voilà. Et je pense avoir cette curiosité-là.
On est plus audacieux quand on est autodidacte ?
Il me semble, moi, que c'est important d'avoir les bases, comme dans tout, quoi. En musique, en peinture, on voit les gens, en peinture, bah, tu vas faire les beaux-arts, tu vas apprendre la technique, quoi. Alors, ils apprennent la technique, ils ont une maîtrise technique incroyable, quoi. Mais après avoir appris tant de choses, le truc, c'est de se défaire de ça, justement, pour trouver son identité.
C'est déconstruire.
Voilà. Et en musique, c'est aussi la même chose. Mais je pense que c'est important, quand même, d'avoir les bases, quoi. À condition de pouvoir sortir de ça, quoi. Mais après, ça, c'est le... Là intervient ensuite, c'est... On a quelque chose de particulier ou on l'a pas, quoi. Voilà, où on est prisonnier de cette technique parce qu'on a peut-être rien non plus à dire. Mais je pense que ceux qui ont vraiment des choses à dire, ils se défendent de ça. Mais cette technique les accompagne quand même, quoi, tout le temps, quoi. Ne serait-ce que de savoir qu'on maîtrise les choses, quoi. Voilà.
Avant de rentrer et d'être accepté au centre de formation d'Auxerre en 1981, vous partez donc à 700 km de Marseille pour de nouvelles aventures. Il y a eu quelques années où, effectivement, entre les Cayolles et Auxerre, vous vous êtes aperçu que vous jouiez bien. À quel moment précis, Eric Cantona, vous avez pris conscience que vous aviez du talent ? Est-ce qu'on peut en prendre conscience comme ça, ou c'est un mouvement, ou c'est quelque chose qui vient lentement ? Il me semble que rapidement, vous avez compris, ou les autres ont compris pour vous, que vous aviez du talent.
Comme je vous dis, après avoir joué gardien, je joue attaquant. Donc après attaquant, vous marquez des buts et puis vous en donnez aux autres. on s'aperçoit qu'on a peut-être un petit quelque chose, quoi. Enfin, on s'en aperçoit. Encore une fois, là, je pense que les parents sont importants, quoi. Voilà, moi, mon père et ma mère, mais mon père parce qu'il connaissait le football, quoi, encore plus, quoi. Même bien que ma mère nous suivait aussi. Mon père, il m'a jamais, je l'ai jamais entendu me dire que j'étais bon, quoi. Mais je l'ai toujours senti, quoi. Par contre, je l'ai toujours entendu me dire ce que j'aurais pu mieux faire, quoi. Voilà. Mais j'ai toujours senti aussi que derrière, j'avais aussi certaines qualités, quoi. Donc, quand je parlais tout à l'heure de la parfaite distance de marquage et de tiens, vas-y, tu veux y aller, donc va à Auxerre, au centre de formation. Le parfait truc, quoi. Vous voyez, c'est. Ils ont été aussi comme ça quand on était jeune, quoi. Quand j'étais gamin. Non, tu as des choses à apprendre. Toujours des choses à apprendre. Mais il faut que tu sentes quand même qu'il y a quand même quelque chose, quoi. C'est-à-dire la confiance, juste la confiance qu'il faut pour continuer de travailler, quoi. Et juste pas trop de confiance pour te dire que tu peux faire la différence sur des acquis, quoi. Non, c'est la confiance nécessaire, ouais, ok. Mais avec le travail, tu arriveras à faire quelque chose, quoi. Et le travail, et le travail, et le travail. C'était que ça.
1981, Auxerre, la rencontre avec Giroud. C'est un moment décisif, c'est un moment important quand vous rencontrez ce personnage qui est devenu une légende dans le foot. Il accueille ce petit Eric Cantona qui est déjà assez grand, disons il a 15 ans. Est-ce qu'il sent qu'il a affaire à un personnage, j'allais dire, difficile ?
Ça, je sais pas, c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui, quoi. Mais moi, je me souviens parfaitement, par contre, de la rencontre la première rencontre avec Giroud, quoi. Mmh. Parce qu'à cette époque-là, je devais aller à l'OGC Nice, quoi. C'était pratiquement fait, quoi. Et je me suis dit, il y a Auxerre qui me demandait, donc je lui ai dit, moi, je vais y aller, quand même, quoi. Et Giroud, en fait, qui était l'entraîneur de l'équipe première. Et Auxerre, à cette époque-là, c'était même pas une scène de formation. C'était là. Il venait de à peine de passer, de faire une saison en première division et de se sauver in extremis, quoi. Et sans histoire, au plus haut niveau. Puisqu'ils ont, ils ont gravi les échelons et Giroud a pris le club au niveau régional et il a fait monter en première division. Donc c'était la première fois de l'histoire du club qui jouait en première division. Et l'OGC Nice, c'était un club qui avait une histoire, quoi. Donc pourquoi je suis allé à Auxerre?
Pourquoi?
Parce que Giroud. Parce que j'ai rencontré cette personne. Et je sais pas, j'ai senti un truc dans ce club de particulier, quoi. Voilà. Alors, la première année que j'ai passé là-bas, il n'y avait pas le centre de formation. C'était un patronage avec l'abbé Bonnefoy. Et puis, on traversait toute la ville et puis on allait s'entraîner. Et puis, deux ans après, le centre de formation était fait et je suis rentré au centre de formation. Mais ça s'est bien passé à Auxerre. Puis après, moi, je suis allé on a 15 ans, c'est des âges difficiles, hein. Donc, Giroud, c'est un second père pour tous, quoi, pour nous tous. Hein. Mmh. Et ça, c'est important, parce que c'est pas l'entraîneur du centre de formation, de notre côté. C'est l'entraîneur de l'équipe première. C'est l'entraîneur de l'équipe première qui reçoit un jeune de 15 ans pour être au centre de formation. Un centre de formation qui n'existe pas, mais où on va faire de la formation, quoi. Mais on voit ça où, quoi. Si, à Manchester, on voit ça on a vu ça avec Ferguson, qui a dirigé l'équipe première pendant des années, mais qui connaissait le prenom de tous les jeunes et qui venait voir jouer les jeunes et à qui il donnait des conseils, et voilà. Mais bon, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme ça. Et pour moi, c'est des grands exemples, quoi. Pour moi, un club, il se dirige comme ça, quoi.
Qu'est-ce qui fait que Giroud est meilleur que les autres?
Après, meilleur que les autres, en tous les cas, qu'il a fait est exceptionnel, quoi.
Rendre compatible des caractères compliqués, complexes, en tout cas, comme le vôtre et celui de Giroud, il y a une alchimie, c'est pas possible autrement, il y a quelque chose.
Ouais, mais Giroud, il aurait jamais pu réussir s'il avait pas, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, mais qui sait aussi faire avec la personnalité de chacun. On peut pas être un grand entraîneur sans ça. Grand entraîneur, c'est d'abord un grand psychologue. Et Giroud a toujours défendu la qualité du joueur et pas la facilité à gérer un joueur. Ça lui faisait pas peur d'avoir à gérer des personnalités, quoi. Comme ça n'a jamais fait peur à Ferguson. Voilà. Après, la facilité, c'est de prendre entre guillemets, des moutons, et puis prendre les meilleurs moutons, quoi. Ces gens-là, ça leur a jamais fait peur d'avoir à gérer, je parle pas de moi, hein, particulièrement, je parle de tout le monde. Donc c'était une forte personnalité, Giroud, mais c'était quelqu'un qui faisait aussi avec la personnalité de chacun et qui tirait 100% de chacun. Voilà, en les prenant aussi individuellement, quoi. Dans un collectif, quoi.
Vous vous affrontiez souvent sur le terrain ou dans les choix tactiques de Giroud? Est-ce que, au contraire, vous acceptiez
Je n'ai jamais contesté un choix tactique. Non. Après, directement avec lui, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu des problèmes avec des coéquipiers ou des trucs comme ça, quoi. Et voilà, il a toujours géré la situation, quoi, comme il devait le faire, quoi. Mais jamais vraiment été en conflit avec lui, quoi. Non. Ben, en conflit, pas directement, en tous les cas, quoi. Ben, parce qu'il s'est passé quelque chose, un truc avec... voilà, mais c'était pas... C'est quelqu'un que je respectais beaucoup, Giroud. Et que je continue de respecter.
Et que continue, ouais. Récemment, à cette antenne, pour une émission équivalente, à Voix Nue, qu'on a fait avec Giroud, où évidemment on a parlé de vous. Et il a effectivement une admiration et une fierté de vous avoir formé. Mais il dit, Éric Cantona, c'est surtout un anarchiste. Qu'est-ce que vous entendez là-dessous? Quand il dit Cantona, c'est un anarchiste.
Ça voudrait dire que je supporte pas l'autorité,
hein, Oui, sûrement.
Ouais.
Ou cette liberté que... revendiquer une liberté.
Non, en tous les cas, je sais pas après.
C'était dit de manière élogieuse,
ouais,
non,
je comprends.
Pas...
Comme je vous disais, après on est tous différents et on doit prendre tout le monde avec comme il est, quoi. Mmh. Moi, si vous venez, vous me dites tiens, ça non, les choses sont comme ça. Ça marche pas, quoi. Mmh. Vous faites comprendre que les choses doivent être comme ça. Si vous me donnez la confiance pour aller là où vous voulez que j'aille et pour tirer, et vous me donnez 100% de mes possibilités, vous m'armez pour prendre du plaisir, quoi. Parce que je joue au football pour le plaisir du jeu. Le plaisir du jeu passé par le travail, passé par tout ça, passé par la confiance des entraîneurs, passé par un style de jeu. Et le rôle que j'avais dans cette tactique, dans ce groupe, quoi. Et on m'a toujours donné une liberté. Alors, une liberté qu'on m'a pas donnée à 11 joueurs, quoi. Mais Auxerre m'a donné cette liberté-là, comme Ferguson m'a donné cette liberté-là. Mais cette liberté-là, elle se gagne, et chaque dimanche, elle doit se gagner. Voilà, c'est-à-dire, tu es libre, mais tu dois m'apporter quelque chose, quoi. Je donne cette liberté, et on construit quelque chose autour de ça, mais ensuite tu as des responsabilités, quoi. Voilà. Donc moi j'aimais avoir cette liberté sur le terrain, et c'était une preuve de confiance de ça, mais c'est des responsabilités aussi, mais ça me faisait pas peur, ça.
Auxerre, c'est un apprentissage, mais aussi vous n'avez pas abandonné pour autant la peinture à Auxerre, vous continuiez à peindre, ou en tout cas conserver un rapport avec les pinceaux.
En fait, c'était pour mieux me concentrer sur mon jeu, quoi. Voilà, j'ai jamais trouvé le truc comment je pourrais me concentrer et penser 24 heures sur 24 au jeu, quoi. Voilà. Tout ça m'aidait à me préparer, quoi. Voilà. Mais tout ça m'aidait à me préparer jusqu'à un certain moment, quoi. Voilà, c'est fallait pas que ça dure une heure avant le match ou non, dans la semaine loin du match et puis 48 heures avant le match, ensuite on se concentrait vraiment sur le match, quoi. Mais avant ça, j'avais besoin de faire d'autres choses. J'avais besoin de c'était mon équilibre, quoi. C'est un équilibre. Voilà, après ma façon de façon voilà, c'est sans ambition, hein, on n'est pas des mais la pratique et le travail, l'esprit et puis ça, c'était, ouais, c'était, ça faisait partie de ma préparation. Quoi.
À aucun moment dans l'expérience auxerroise, vous n'avez douté de votre avenir de footballeur?
Non, pas vraiment, non.
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 C'était
non, après, on doute tout le temps. On est certain d'une chose, c'est de nos doutes, quoi. Mais des doutes qui nous font avancer, quoi. Voilà. J'ai jamais eu la sensation à un moment donné. Ça a plutôt tout le temps bien marché, quoi. Voilà, je suis arrivé à 15 ans, à 17 ans, je jouais en première division. Enfin, j'ai joué mon premier match en première division. Et puis quand je jouais pas en première division, je jouais en troisième division qui était la réserve, où on avait une équipe exceptionnelle, on a été champion. On était toujours là, être le meilleur buteur ou le truc. Donc ça s'est toujours bien passé, quoi. J'étais international à 21 ans. J'étais à Auxerre encore. Voilà, donc il y a eu non, ça s'est bien passé. Il y a eu une année entre parenthèses, c'est l'année de l'armée, quoi. L'année de l'armée au bataillon de Joinville. Mais bon, ça c'est parce qu'on n'est plus au club, on s'entraîne plus, tout ça. Enfin, on s'entraîne plus avec le club, on s'entraîne. Voilà, on travaille pas avec les joueurs, on travaille pas avec l'équipe, on arrive juste pour jouer le week-end, quoi. Donc, mais bon, ça, on sait que c'est une année un peu difficile, quoi. Non, mais ça, c'était normal, quoi.
On se souvient du premier but marqué en équipe de France.
Je m'en souviens, ouais.
Ouais.
Ouais, c'était contre l'Allemagne, en Allemagne, à Berlin. Sur une passe de José Touré.
Ouais. Et ça reste définitivement.
Ouais, premier comme but, son premier
équipe
but en
de France, de l'équipe équipe de France. Ouais.
Comme mon premier but avec en première division, je me rappelle aussi. Hein. C'était à Rouen. Terrain mouillé, trempé. Je me rappelle aussi. Ouais. Mais je me rappelle assez quand même de presque tous les buts que j'ai marqués, quoi. Voilà, après, il y a des trucs que j'oublie, mais...
Les images, tout, vous vous souvenez? Parce que vous en avez marqué des buts.
Oui, j'en ai marqué, ouais. J'en ai marqué, mais je me rappelle de pratiquement tous, ouais. Ou alors, peut-être, il faudrait me montrer le début de l'action et puis je vous la finirai, quoi. Mais non, ouais. Jouer au plus haut niveau, marquer un but, que ce soit en équipe de France ou en première division, c'est des moments importants, hein, même si on en a marqué plusieurs.
Est-ce qu'on pressent sur un terrain de marquer un but? Est-ce que, comme une intuition, que ça va venir, que ça va arriver? Est-ce que vous êtes dans cette position du joueur qui sait à un moment donné que ce but sera marqué?
Non.
Jamais?
Non,
pourtant, par contre, c'est jamais le fruit du hasard.
Non, c'est jamais le fruit du hasard, mais c'est le football, c'est rien n'est prévisible dans le football. Hein. Puis vous pouvez prévoir un truc et au contraire en prendre un but. Donc, mais on. Justement, pour en revenir à la liberté que j'avais sur le terrain, c'est. Ma liberté, c'était aussi d'essayer de comprendre la faiblesse de l'adversaire, quoi. Et de voir si on joue trop dans l'axe, que c'est bouché dans l'axe, alors que le jeu se passe complètement dans l'axe, s'isoler et arriver à aller complètement sur Mancini, il faisait très bien ça aussi, Roberto Mancini, aller complètement s'isoler sur une ligne de touche, quoi, alors que tout le monde est dans l'axe, quoi. Et c'était essayer de proposer autre chose que ce qu'on est en train de faire parce que ça passe pas, quoi. Voilà. Et ça, c'était mon rôle. Surtout à Manchester.
La conscience du travail d'équipe sur un terrain, de la complicité, de l'anticipation, dépend tellement de paramètres. Et est-ce qu'au fond, ils vous font toujours sur le terrain un complice avant d'en avoir neuf autres? Est-ce qu'il en faut vraiment un d'abord?
Il n'y a pas de bon passeur sans avoir un bon... je veux dire, Platini à la Juventus, c'est Platini Boniek. Hein.
Il n'y aurait pas eu de Platini autrement.
Non, après, on aurait trouvé... Mais Platini pouvait faire ses transversales de 30 mètres par-dessus la défense sur un joueur qui appelle en profondeur, parce que Boniek sentait les coups aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait les appels au bon moment, et Platini le voyait au bon moment, et puis... Voilà, donc on a besoin de joueurs comme ça, comme on peut avoir besoin. Après, c'est la complémentarité. On peut avoir besoin. Moi, j'ai joué avec Mark Hughes, à Manchester, qui gardait très bien le ballon dos au but, qui était petit pourtant, hein, mais trapu, très. Et il pouvait avoir deux défenseurs sur lui. C'était quelqu'un qui pouvait garder le ballon et juste donner le temps nécessaire pour qu'on arrive près de lui. Et puis après, il y avait des joueurs qui pouvaient appeler le ballon dans la profondeur, comme Ryan Giggs à l'époque, ou Lisharp, ou Kanchelski. Voilà, après ça c'est la complémentarité, hein. C'est-à-dire partir de derrière, s'appuyer sur un mec qui est capable de donner dos au but, de garder le ballon dos au but, donner le temps aux autres de venir en appui, et quand ce joueur en appui reçoit le ballon de ce Mark Hughes, et avant d'avoir reçu le ballon, il sait que les autres vont appeler dans la profondeur, il suffit juste de trouver l'espace pour glisser le ballon, quoi. Mais ça c'est les équipes de rêve, quoi. Moi, j'ai vécu à Manchester. Je jouais dans cette équipe extraordinaire, qui malheureusement n'a jamais pu jouer à 100% de ses possibilités, puisqu'à l'époque on pouvait pas jouer avec tous les étrangers, quoi. Bon, il y en avait pas beaucoup, mais un Irlandais c'était un étranger, un Gallois, Ryan Giggs était étranger, quoi. Voilà. Et pour moi, cette équipe est la plus grande équipe de Manchester.
On va y revenir, on va y venir à Manchester, mais pour terminer un peu sur Auxerre, toutefois, qui était le Boniek de Cantona à Auxerre, qui était le vrai complice sur le terrain?
À Auxerre, je jouais devant, ouais. Beaucoup plus devant.
Beaucoup plus devant.
Ouais. Beaucoup plus devant. J'avais une certaine liberté, mais beaucoup plus devant. Non, c'est quand on peut prendre un petit peu plus de recul, quoi, que c'est. Je jouais pas totalement en 10, quoi. J'étais à 9,5, quoi. C'était un peu la période de 9,5, comme Roberto Mancini pouvait, comme Baggio à l'époque. C'est-à-dire, c'était des 9,5, ce qu'on appelait des 9,5, quoi. Voilà, c'était ni de 10 ni de 9, quoi. Voilà. Enfin, maintenant, ils ont les numéros 45, 52, je sais pas où ils prennent. Mais à l'époque, un 10, c'était un meneur de jeu, et un 9, c'était un avançant.
C'est fini, ça.
Voilà, entre le 10 et le 9, il y avait un 9,5, un mec qui se retrouvait ni meneur de jeu, ni avançant, qui était un peu l'homme à tout faire là-bas.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Eric Cantona. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Élise Le, réalisation Luc-Jean Reynaud. Coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.